Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Pascal Masieka pour les journaux.
Les titres du journal, arrestation à Kinshasa des dirigeants de la DGRK, du secrétaire général de l'urbanisme et habitat, du conservateur des titres immobiliers et de l'agence congolaise de grands travaux auprès de la société Zénith. Le conseiller du chef de l'État, Luzolo Bambi, le poursuit pour détournement des fonds, spoliation et vente des immeubles de l'État. Le conseiller juridique de feu Étienne Tshisekedi Mulumba appelle la Cour constitutionnelle à déclarer la démission du Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze pour haute trahison. Michel Eboma lui reproche les cumuls des fonctions dans un parti politique qu'il vient de créer à Kinshasa et qui est différent de l'UDPS. Fin de la matérialisation des limites des zones de développement rural de Bafoussende et d'Ubundu qui sont à la base des conflits avec les populations locales. Les conclusions avec le sociologue Philippe Nzita, c'est notre invité ce soir. Madame, messieurs, bonsoir. Plusieurs dirigeants des services publics de l'État à Kinshasa sont tombés dans les filets de la justice congolaise. Le conseil spécial du chef de l'État, Luzolo Bambi, chargé de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, financement du terrorisme et blanchiment des capitaux, vient d'appréhender les hauts cadres de la Direction générale de recettes des Kinshasa de Jirka, le secrétaire général de l'urbanisme et habitat, le conservateur des titres immobiliers de la Gombe et le fonctionnaire dirigeant de l'agence congolaise de grands travaux auprès de la société Zénith. Des précisions avec vous, Jeff Ngoy.
Il est reproché à ces personnalités plusieurs faits. Selon les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, les responsables de la DGRK sont suspectés de détournement de deniers publics. Aussi parle-t-on de la spoliation et vente au rabais des immeubles de l'État par le secrétaire général de l'urbanisme et habitat et le conservateur des titres immobiliers de la Gombe. Il s'agit entre autres de la vente de l'immeuble IAC, de la non-exécution des travaux et le détournement des fonds destinés à la construction des passerelles occasionnant quotidiennement des morts sur le boulevard Lumumba en direction de l'aéroport international d'Ndjili. Et cela en complicité avec le fonctionnaire dirigeant de la CGT auprès de la société Zénith. Plusieurs autres faits similaires sont restés sans suite, notamment l'enquête initiée par le professeur Luzolo Bambi auprès des banques membres de l'ACB. La mission principale du conseiller spécial étant de dénoncer les faits portés à sa connaissance au niveau du parquet. Ce dernier en ouvre un dossier pour instruction et au besoin procède à l'arrestation des suspects.
Merci Jeff Ngoy pour ces précisions. Nouvelle réaction après la désignation de Bruno Tshibala Nzenze comme président de l'UDPS par le congrès organisé dans la capitale par son aile de ce parti. L'UDPS demande à la Cour constitutionnelle de déclarer le premier ministre démissionnaire conformément à l'article 97 de la constitution du pays. Le conseil juridique de feu Étienne Tshisekedi Mulumba et cadre du rassemblement de l'opposition affirme que l'UDPS va déposer sa requête à la Cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce sur ce qu'elle considère comme une haute trahison. Michel Eboma est au micro de Jeff Ngoy.
La Constitution, au pied de l'article 97, interdit le cumul des fonctions. Pour lui, M. Bruno Tshibala, d'avoir accepté une fonction au sein de son parti politique qu'il vient de créer, qui est différent de l'UDPS, eh bien, il entre en rébellion à la Constitution. Il viole intentionnellement la loi du pays, eh bien, là, il est poursuivable pour haute trahison. La Constitution elle-même nous donne les pistes. Nous sommes dans l'article 164, 465 et suivant de la Constitution qui a donné compétence à Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle d'instruire ce genre de dossier. Eh bien, nous serons au parquet général près la Cour constitutionnelle pour déposer une plainte contre Monsieur Bruno Tshibala Nzenze.
Politique encore, le président de la Fédération de l'UDPS Mbuji Mayi dans le Kasaï oriental condamne aussi la désignation de Bruno Tshibala Nzenze comme président de ce parti politique à l'issue d'un congrès organisé au mépris des textes. Dans une déclaration faite hier mardi après-midi dans cette ville, Denis Kalombo demande aux membres et sympathisants d'attendre la tenue du vrai congrès qui sera tenu par les dirigeants de l'UDPS habilités. Il le dit à Chris Mukand.
Nous avons suivi que M. Bruno Tshibala
a convoqué un congrès au bout duquel on l'a désigné président du parti. Vous savez, la Fédération de Mbujimaï est légaliste et respectueuse des textes. Nous avons dit, nous ne pouvons pas accepter que les choses se passent de cette façon-là. Depuis que notre président est décédé, nous savons qui sont les mandataires du parti, du moins ceux qui sont restés en fonction. Et c'est ceux-là qui sont habilités de convoquer le congrès. Il ne faut pas que les gens, quand ils vont faire leur commerce avec leurs amis, se réveillent le matin pour dire que nous sommes devenus mandataires du parti et nous pouvons convoquer le congrès. Nous disons, la Fédération de Mbujimaï reste dans la ligne droite. Nous attendons, il y a un congrès qui est en train d'être préparé. Bientôt, au mois de février, il va se tenir et nous ferons les choses correctement.
Et puis, le secrétaire général de l'ONG Journalistes en danger appelle les professionnels de médias à assurer le droit du public à l'information, même si la loi y afférente n'est pas encore votée au Parlement ici à Kinshasa. Car la liberté de l'information est un droit reconnu et garanti par la constitution du pays. Déclaration faite ce mercredi lors d'un atelier sur la problématique de l'accès à l'information par des élections, pour des élections transparentes. Activiste Ivoidi exhorte donc le journaliste congolais a recherché la bonne information. Une démarche qui, selon lui, permettra aux électeurs d'opérer des bons choix lors des prochaines élections en RDC. Il a dit à Mimi Nguma Mulongo.
Donc le journaliste peut aujourd'hui faire son travail en toute indépendance et mais de manière professionnelle pour assurer ce droit du public, notamment en suivant de près toutes les opérations électorales, tous les processus électoraux, y compris en dénonçant les tentatives de fraude ou des choses qui ne vont pas dans le sens de favoriser la transparence. Et je crois que c'est de la responsabilité du journaliste. Et ce que nous avons voulu aujourd'hui exhorter les professionnels des médias pour qu'ils prennent conscience de leur responsabilité dans la société en cette période assez capitale pour notre pays, pour dire qu'ils ont un rôle et une responsabilité d'assurer le droit du public. Ce n'est que lorsque le public sera bien informé qu'il peut demander des comptes aux gens qui vont se présenter demain comme candidats pour qu'on sache en fait qui est qui a fait quoi hier, qui est capable de faire quoi demain s'il est élu, quel est son projet de société. Et ça ne peut passer que par les médias.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, 4 morts et 46 personnes enlevées, bilan de l'incursion samedi dernier des Maïmaï Simba dans le village de Mabouo, un carré minier de la chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa, situé à plus de 180 km au sud-ouest de Bunia, dans la province de l'Ituri. Selon l'ONG des droits de l'homme, Convention pour le développement des peuples forestiers, ces miliciens ont également pillé des biens de la population locale. Le récit de Sadiki Aboubakar.
Dans une déclaration publiée ce mardi, l'ONG CODEPEF indique que les 4 personnes sont mortes noyées dans la rivière Ituri. Leur pirogue a chaviré pendant qu'elles fuyaient l'attaque de ces Maïmaï. Ces derniers ont systématiquement pillé le village. Les 46 personnes, parmi lesquelles 2 femmes, ont été utilisées pour transporter les butins. Le commandant second de la 31e brigade de FARDC, basé à Mambasa, confirme la nouvelle. Pour le colonel Philippe Fouata, les forces loyalistes sont intervenues en retard compte tenu de la distance qui sépare leur position du village de Mabouo. Pour l'instant, les FARDC sont à la poursuite de l'ennemi, ajoute-t-il. L'administrateur du territoire de Mambasa confirme également cette incursion. Cependant, Idriss Koma Koukodila ne donne aucune précision sur le bilan. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
On fait maintenant un détour par la province du Tanganyika où les agences de presse locaux rapportent que des habitants du territoire de Moba se sont réfugiés en Zambie. Ils ont fui récemment les exactions des milices impliquées dans le conflit intercommunautaire. Alors qu'ils recevaient à Kalemie une délégation de la MONUSCO, l'administrateur du territoire de Moba a fait état de la montée de l'insécurité dans certaines localités situées à une 60aine de kilomètres de Moba. Bienvenue, Kainda Mouni, est interrogé par Expedi Mwambamoubi.
Parmi les éléments, il y a beaucoup qui ont déposé les flèches, les armes blanches. Mais le récalcitrant, ce sont eux qui continuent encore à déranger notre paisible citoyen. Dans les champs, dans les villages, ils arrivent, ils pillent. Maintenant, la population a peur. C'est ainsi qu'on parle maintenant des déplacements des populations de Moba vers les pays voisins. Parler à proprement de l'insécurité, bon, moi je ne pense pas, si ce n'est que ces déplacements-là d'une partie de notre population qui fuit maintenant les exactions de ces bandits-là.
Quelles sont les localités qui sont affectées par ces déplacements des populations?
Présentement, je peux vous citer le village Kalolo et le village Mutaba. C'est là où sont basés tous ces bandits. bandits là. Donc pendant la nuit ou le jour, ils quittent là-bas pour venir enlever les gens dans les villages et dans les champs où ils font des travaux champêtres.
Et puis la ville de Kananga au Kasaï central a abrité hier mardi un atelier à l'intention des membres des comités locaux de protection de la population. Ces structures sont mises en place dans cette ville par la section des affaires civiles de la MONUSCO pour améliorer la sécurité et permettre la stabilisation et la consolidation de la paix. Le compte rendu de Joël Bofengo.
Cet atelier était destiné à informer les membres de 5 comités locaux de protection de la ville de Kananga sur des thématiques comme les droits de l'homme ou la protection des civils. Chaque comité est implanté dans l'une des 5 communes de la ville. Ils alertent les pouvoirs publics ou leurs partenaires sur les menaces contre la sécurité des personnes et leurs biens. Leur objectif est de prévenir les atteintes aux droits de l'homme. Le coordinateur de la section des affaires civiles de la MONUSCO à Kananga, SOSIS, explique le travail d'un comité local de protection qui fait face à un cas d'atteinte à la sécurité.
Idéalement, le comité local de protection, par l'échange d'informations entre les membres de la communauté, va identifier la possibilité de telles attaques avant qu'elles se produisent. Sinon, les comités peuvent aussi collecter des informations au sein de la communauté sur ce qui s'est passé et passer ces informations-là au commandant de base de la MONUSCO, au commandant de la FRDC, au chef coutumier.
Pour le secrétaire exécutif du réseau provincial des ONG des droits de l'homme au Kasaï central, les comités locaux de protection sont très utiles pour servir d'alerte en cas de violation des droits humains. Arthur Padingani.
C'est un instrument très bien qui va permettre à ce que non seulement à notre population de connaître de ses droits, mais également aidera les autorités à comprendre qu'ils ont dans leurs attributions la mise en œuvre et la promotion des droits de l'homme.
En plus de Kananga, les comités locaux de protection ont également été implantés dans certains territoires du Kasaï central, notamment à Luisa, Bulungu et Chimbulu.
Il est 18h12 à Kinshasa. Plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë sévère en 2018 et 400 000 d'entre eux pourront en mourir dans la région du Kasaï s'il n'y a pas d'assistance humanitaire. Un cri d'alarme de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, répercuté ce mercredi à Kinshasa au cours de la conférence hebdomadaire de l'ONU par le chargé des communications d'Ocha RDC. Les propos d'Yvon Edoumou sont recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Au moins 400 000 enfants de moins de 5 ans dans la région du Kasaï souffrent de malnutrition aiguë sévère et pourraient mourir en 2018 s'ils ne sont pas assistés par des interventions humanitaires. C'est l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui lance ce cri d'alerte en indiquant que 25 zones de santé sont actuellement en crise nutritionnelle. Cette situation est le résultat de la baisse de la production agricole et des pénuries alimentaires causées par des déplacements massifs de personnes autour des 18 derniers mois dans les provinces du Kasaï. La malnutrition est un problème chronique et répandu en RDC. 43% des enfants de moins de 5 ans souffrent de sa forme chronique et UNICEF estime que plus de 2 millions d'enfants pourront souffrir de malnutrition aiguë sévère en 2018.
Yvon Edoumou ajoute qu'en 2017, l'UNICEF et ses principaux partenaires ont fourni des soins nutritionnels thérapeutiques à plus de 50 000 enfants malnutris du Kasaï. Un chiffre fiable, selon lui, au vu des milliers d'enfants qui sont dans le besoin. Autre nouvelle en plus bref, c'est depuis près de 2 semaines que plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa n'ont pas d'électricité. La SNEL l'explique par un incendie survenu jeudi dernier à son poste de haute tension de Liminga à Limete. Cette entreprise d'État annonce que ses équipes d'intervention sont à pied d'œuvre en ce moment pour établir la situation. Elle rassure tout de même que les usines de la régie des eaux Njili, les communes de Barumbu, Selembao, Bumbu, Ngaba, Mongafula, les secteurs industriels et résidentiels de Limete sont déjà servis. Les habitants de Massina, de Njili, de Kimbanseke, de Makala, de Kalamu et de Ngiringiri devraient prendre leur mal en patience.
Actualité, Afrique Monde.
Les nouvelles de l'étranger maintenant. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui mercredi à Koudougou, la ville natale du journaliste Norbert Zongo, qui avait été assassiné en 1998 pour réclamer vérité et justice à l'occasion du 19e anniversaire de son décès. Journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant, Norbert Zongo et ses 3 compagnons d'infortune avaient été retrouvés morts calcinés dans leur véhicule le 13 décembre 1998. 1998 au sud du pays. Une commission d'enquête qui avait été mise en place à l'époque avait établi que ce journaliste avait été tué dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Norbert Zongo enquêtait, souvenez-vous, à l'époque sur la mort de David Ouédraogo, le chef de François Compaoré, frère cadet du président burkinabé de l'époque. Au Togo, des nouvelles manifestations de l'opposition ont eu lieu ce mercredi contre le pouvoir à Lomé. Des milliers de personnes ont défilé donc aujourd'hui à l'appel de l'opposition qui boycotte les concertations qui sont proposées par le gouvernement central pour sortir de la crise politique depuis 3 mois. Le gouvernement a entamé la veille des consultations avec les différents partis politiques en vue de la tenue d'un dialogue réclamé par la communauté internationale dont la date n'a toujours pas été fixée. Enfin, sachez que le président turc a appelé aujourd'hui mercredi à la reconnaissance de Jérusalem-Est comme la capitale de la Palestine. C'est en réaction à la reconnaissance de la ville sainte comme capitale d'Israël par Washington. Recep Erdogan invite donc les pays qui défendent le droit international et la justice à reconnaître Jérusalem occupée comme la capitale de la Palestine. Il l'a dit à Istanbul aujourd'hui lors de l'ouverture du sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique.